France Inter, le 18-20.
Cette histoire de 80 km/h. Et au fond, c'est comme à chaque fois qu'on parle sécurité routière, et pardon, je le dis aussi parce que j'ai le permis comme vous, à chaque fois qu'on prend le volant, on n'est plus les mêmes. On insulte volontiers le type qui est devant et qui ne sait pas conduire, évidemment, le type qui est derrière et qui vous colle au pare-choc. Et si je pile, il aura l'air malin. Les mêmes qu'on retrouve de vous à moi, 500 mètres plus loin, au feu rouge ou au rond-point. La voiture, ça change un être humain, et chaque fois qu'on parle de réduire la vitesse, tout le monde hurle. Cette fois, ne fait pas exception, l'annonce du 80 km/h au lieu de 90 a été faite le 9 janvier. Depuis, c'est une manifestation toutes les semaines. Les motards, encore samedi dernier. La sécurité routière, hier, qui rend son dernier rapport d'expert en disant qu'elle a raison, il faut rouler moins vite. Le débat se déplace. On parle de la France urbaine contre la France rurale. Celle qui a plein d'alternatives de transport et celle qui n'en a pas, il ne lui reste que la voiture. Probablement a-t-on oublié quand même au passage qu'à la réduction à 70 faite sur le périph' parisien, on avait provoqué le même genre de réaction épidermique. Bref, faute de réconcilier qui que ce soit, peut-on éduquer mieux? Peut-on avoir des limitations à la carte en fonction des lieux, en fonction de l'accidentologie? Est-ce que c'est juste une question de ligne droite ou une question de revêtement? Si vous êtes au volant, garez-vous et appelez-nous, c'est maintenant.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Allez Agnès, bonsoir, soyez la bienvenue, on vous écoute.
Allô?
Allô, allez-y Agnès,
oui,
bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Bon, je vais détonner moi parce que je suis plutôt favorable à cette mesure, tout en sachant qu'elle ne suffira sûrement pas. Et les opposants à cette mesure me paraissent manquer singulièrement d'humilité s'ils prétendent de maîtriser tous les dangers de la route. Moi, j'ai appris à conduire. Quand j'ai appris à conduire, on m'a dit qu'il fallait sur la route 50 paires d'yeux et être prudent pour 10. Alors, les gens qui ne peuvent pas en même temps lire les panneaux, le compteur de leur véhicule, regarder dans le rétroviseur, la route, le ciel, m'inquiètent beaucoup. Hein, je m'inquiète beaucoup sur l'état de leur mobilité oculaire.
Agnès, juste, j'ai une curiosité, je ne le vois pas sur ma petite fiche. Vous nous appelez d'où?
Alors, j'appelle de Marseille.
D'accord.
Où les pratiques routières sont ahurissantes.
Hein,
ce matin encore, sur une portion de route limitée à 50, quelqu'un qui ne supportait pas cette limitation m'a doublé, c'est régulier, hein, par le bas-côté.
Voilà, on va pas faire de caricature, mais donc, c'est vrai que vous êtes un peu dans
un
endroit un peu emblématique, Agnès.
Dans le rétroviseur.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière et pour démarrer le débat qui se poursuit jusqu'à 20h sur France Inter. Grâce à vous tous. Anne Lavaux est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale de l'association Prévention Routière. Et Claude Riboulet également. Bonsoir.
Bonsoir.
Président UDI du Conseil départemental de l'Allier. Bah, c'est pour vous, ça, Anne Lavaux, les remarques d'Agnès. Il faut 50 paires d'yeux, effectivement, et, quand moins on roule vite, plus les yeux sont efficaces.
Agnès a tout à fait raison et c'est formidable qu'elle le rappelle en début de ce débat. C'est qu'il n'y a pas de tâche quotidienne plus complexe que celle de conduire. C'est banalisé maintenant, on prend sa voiture un peu tous les jours, etc. Mais en effet, ça mobilise le plus de fonctions cognitives que de faire toute autre tâche du quotidien. Et il faut le rappeler régulièrement et il faut s'en rendre compte.
Est-ce qu'on sait jusqu'à quel point on est moins efficace au volant à 10 km/h de plus? Dans ce que dit Agnès, par exemple, dans notre attention, etc. Est-ce que juste là-dessus, c'est-à-dire la concentration qu'on peut avoir, est-ce qu'on sait si elle est différente à 10 km de plus?
Mais bien sûr, parce que la vitesse vous réduit le champ visuel. C'est-à-dire que si vous avez un champ visuel parfait à 40 km/h, quand vous êtes à 130 km/h, votre champ visuel est à 30% de ses capacités. Donc de toute façon, la vitesse a des conséquences sur la vision, en tout cas, et puis bien sûr, sur vos capacités à freiner. Vous allez avoir le même temps de réaction, mais la durée du freinage va être bien sûr beaucoup plus longue. Donc il y a un impact évident sur ces fonctions cognitives par rapport à la vitesse.
Claude Riboulet, vous qui faites partie de ces présidents de région, vous êtes nombreux, hein, vous étiez presque une trentaine à 28 départements en tout, à réclamer du cas par cas, en fait. C'est toujours un peu compliqué quand on a en face des arguments comme ceux de la sécurité routière, par exemple, qui parlent basiquement de chiffres, de réflexes, de champs de vision et de choses comme ça.
Je crois que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que les élus locaux, présidents de département, maires de communes, présidents de région, partagent complètement ce qui est le fond de la question. Moins de morts sur nos routes. Qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. Cette préoccupation, c'est même un sujet majeur. C'est un sujet essentiel, on la partage. Ce qui nous a chiffonné dans cette affaire, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'en termes de méthode, ça a quand même été très directif. Qu'on aurait sans doute préféré un peu plus de discussion, de concertation et pas simplement une expertise nationale. Et que du coup, force est de constater que ça a braqué tout le monde. Que tout le monde était pris à brosse-poil, à commencer par les élus locaux.
De vous et moi, monsieur Riboulet, si on demande à 60 millions de Français à combien il faut rouler, il y a 60 millions de réponses.
Il y a déjà 75% aujourd'hui des gens qui pensent qu'ils ne sont pas en accord avec cette question du passage de 90 à 80 km/h. Et que c'est quand même dommage.
78% même, vous voyez.
Alors, qui dit mieux ?
Oui.
Et c'est quand même dommage, voyez-vous, que sur un sujet aussi important, aussi fondamental, d'entrée de jeu sur la méthode, on n'ait pas été fédérateur et dans on s'y met tous. Deuxième remarque. On regrette qu'il n'y ait pas eu la reconnaissance de cette expertise des territoires. Les départements singulièrement, que je défends, celui de l'Allier en premier lieu, mais où les agents de nos administrations, les agents gestionnaires des routes, les agents de nos bureaux d'études, et les élus évidemment, on revendique d'avoir aussi une parfaite connaissance et une expertise. C'est d'ailleurs le sens de la proposition de loi qui est déposée par le groupe UDI Agir et Jean-Christophe Lagarde pour dire « faites confiance aux élus locaux, avec les préfets dans les territoires ». Parce que sans doute mieux que quiconque, nous connaissons ce qu'il est nécessaire de faire. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu les 80 km/h pour réduire la vitesse. Dans des endroits très dangereux, ça, heureusement, on est déjà passé parfois à 70. Mmh. Et on a même demandé des radars automatisés.
Donc vous dites qu'il faut du cas par cas en fonction des routes, en fait. Mais ça paraît très compliqué à évaluer quand même. Il y a même un rapport de la sécurité routière qui dit, sur l'accidentologie, qui dit au contraire, plus la route est droite, plus ça a l'air simple, plus il y a d'accidents parce qu'on est parfaitement en confiance.
Parce que ça sécurise trop, vous avez raison de le rappeler. Sauf que c'est pas la même chose de rouler sur une route qui a 5 mètres de largeur de chaussée, ou 5,50, ou 6 mètres, ou 7 mètres. C'est pas la même chose non plus au-delà de la largeur de la chaussée. S'il y a des accotements bien dégagés qui, en cas de sortie de route, permettent, entre guillemets, d'accompagner la sortie de route. S'il n'y a pas d'obstacle. Parce que quand on regarde les causes, notamment mécaniques, des accidents sur le réseau interurbain, première cause, les carrefours. 20%. Deuxième cause plus importante en taux, c'est la problématique des courbes. Et ça, c'est l'infrastructure. Et la troisième cause, c'est les accotements et les obstacles. Évidemment que si la voiture sort de la route sans percuter un platane, sans percuter quelque chose qui va l'arrêter, qui va créer un choc brutal, on économise évidemment des accidents et des vies,
mais
bien sûr.
Mais moins on va vite, même s'il y a un problème d'accotement, pardon, ça paraît basique, moins on va vite s'il y a un problème d'accotement, moins on risque de se tuer sur cet accotement, non ?
Oui. Enfin, vous avez tout à fait raison de rappeler que la vitesse, c'est le facteur aggravant de toutes les autres causes. C'est-à-dire, je téléphone au volant, si je vais vite et que j'ai un accrochage, un accident, il sera plus ou moins grave en fonction de la vitesse. Et donc, cette mesure, en fait, elle permet de déplacer le curseur de la gravité des accidents. Et donc, là où on a des tués aujourd'hui, on aura des blessés graves. Là où on a des blessés graves, on aura des blessés moins graves. Et c'est parce que la vitesse est un facteur aggravant de toutes les autres causes qu'il est bon de travailler collectivement sur ce critère-là.
Alors, là, visiblement, c'est le collectivement qui manquait quand même dans cette histoire-là.
Exactement.
Pour que ce soit pas perçu comme quelque chose d'à chaque fois coercitif, parce que les gens sont contre à 78%, effectivement, mais quand on est passé à 70 sur le périph', ils étaient contre à 78%. Quand on a baissé la vitesse sur les autoroutes, tout le monde était contre également. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un critère. Et en même temps, ça dit qu'il y a un problème de compréhension. Qui ne fait pas son travail, Anne Lavaux, quand il y a un vrai problème de compréhension entre les automobilistes et les autorités sur ce genre de questions ?
Alors, vous avez raison de rappeler que de toute façon, à partir du moment, et dans votre introduction, vous parliez de cet automobiliste qui change de comportement à partir du moment où il est devant son volant. Dès qu'on touche à la vitesse, on touche à quelque chose qui est philosophiquement très, très grave. Hein. Tout d'un coup, avec l'automobile, on a eu ce qu'on recherche depuis la mythologie, c'est-à-dire la maîtrise du temps et de l'espace. Et donc, rogner ça, c'est rogner quelque chose qui est très important. Après, il faut savoir ce que l'on veut aussi. C'est-à-dire que admettre qu'il y ait 9 tués par jour et 7 fois plus de blessés, c'est trop pour un pays comme le nôtre. Donc, il faut prendre des mesures. Et vous parliez de lisibilité et de collectif. Si chaque département, par exemple, hein, puisque c'est la compétence du département, émet ses propres règles, que certains sont à 90 de manière générale et puis réduisent à 80 ou à 70, que d'autres sont à 80 de manière générale et par ailleurs réduisent à 70, vous perdez une lisibilité qui fait partie de la compréhension globale de cette tâche si difficile à faire au quotidien. Donc il faut absolument garder une règle qui soit une règle commune. Après, on peut effectivement, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est de la compétence des départements. S'il y a une courbe, s'il y a un endroit qui est particulièrement accidentogène, eh bien on peut diminuer la vitesse.
Donc jamais au-dessus, mais toujours au-dessous. Claude Riboulet, vous vouliez répondre.
Oui, parce que je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire sur la lisibilité des vitesses et ce risque de fractionnement sur les territoires. Je suis élu local depuis 1995. Et moi, j'ai vu évoluer, dans des recommandations de sécurité routière, ce qu'on appelait le pas de 20. Mmh. Parce qu'il y a une époque, effectivement, il y avait aussi du 60, il y avait aussi du 80. Et justement, de dire qu'il y a des sections à 60, des sections à 70, des sections à 80, à 90, ça n'est plus lisible. Et c'est pourquoi on a fait le pas de 20. 30, 50, 70, 90, 110, 130. Là, de dire qu'on ramène le 80 km/h, on va justement brouiller le message. Sauf à penser, bien évidemment, que ça ne soit que le premier des actes pour rétablir un pas de 20, à savoir demain, l'autoroute, ça sera plus 130, mais 120, la deux fois deux voies, ça sera plus 110, mais 100, et la ville, ça sera plus 50, mais 40. Mais ce 80
km/h... C'est déjà 30 dans un certain nombre de villes, par ailleurs.
Mais, oui, mais ça, le 30 passera à 20.
Oui, ce qui veut donc dire que... Vous roulez à 60 km/h dans les villes, mais, vous étiez encore trop jeune, mais quand j'ai passé mon permis, moi, j'ai appris qu'on roulait à 60 km/h dans les villes, donc il n'y avait pas de pas de 20.
J'ai aussi connu la période où restait le reliquat du pas de 20. Et si vous me permettez, observons aussi au passage, tout simplement, que sur les compteurs de vitesse de nos voitures, justement, ces vitesses réglementaires du pas de 20, elles sont généralement marquées par un tiret plus fort ou par un chiffre plus gros. 30, 50, 70, 90, 110, 130. Pour rappeler la vigilance des 50 lieux dont on parlait tout à l'heure du conducteur et pour pas rajouter un brouillon dans la lisibilité de la vitesse.
Voilà. Si quelqu'un qui se fait arrêter nous raconte qu'il a pas vu sur son compteur, mais cela dit, il y en aura des cas comme cela, j'en suis sûre. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Isabelle, on vous écoute.
Oui, alors, moi, je voudrais dire que je quand je roule sur les départementales, les 90 ne sont pas respectés. Je roule tous les jours sur cette route. Les 90 ne sont jamais respectés. Je me fais doubler en permanence. Alors déjà, qu'on fasse respecter les 90. Parce que sur les routes à 90, on voit des gens qui roulent à 115, voire 120, même 130. Alors, il n'y a jamais aucun contrôle. Donc déjà, qu'on fasse respecter cette vitesse à 90 avant de passer à 80. Mmh. On dit que voilà, il y a plus de risques. Eh ben là, il y a des risques énormes sur une route à 90 quand les gens roulent à 120, 130.
Merci beaucoup Isabelle. Anne Laveau, elle a raison Isabelle, des gens qui dépassent cette limitation, il y en a beaucoup. Est-ce que le fait de baisser de 10 km/h, ça fait que quand on dépasse la limite, on la dépasse moins ou pas?
Alors, ces gens-là ne changeront jamais leur habitude. Isabelle a parfaitement raison, c'est une histoire de comportement. Et c'est toute l'action de notre association qui agit au plus près des territoires, puisqu'on est présent dans l'ensemble des départements. On agit très bien, d'ailleurs, avec les départements lorsqu'ils mettent en place des actions de prévention du risque routier. Et tout est une question de comportement. Et nous, on pense quand même que puisqu'il y a 90-95% des Français qui respectent la règle, eh bien, ils vont respecter cette règle. Et donc, ça va faire baisser tendanciellement le flux et la vitesse de ce flux. Et donc, ceux qu'Isabelle croise aujourd'hui peut-être à 100 ou à 110, eh bien, quand le flux sera moins rapide, eh bien, ceux-là vont baisser aussi leur vitesse. Et donc, ça va tendanciellement faire baisser les moyennes des vitesses.
Claude Riboulet, une question, juste avant que vous répondiez, une question à vous, monsieur le président du conseil départemental, bonsoir. Pourquoi ne pas dire que ces routes sont de plus en plus mal entretenues? Nous demande une auditrice sur franceinter.fr, ni de poules, carrefours dangereux non signalés, etc. Par contre, les radars, eux, ne solutionneront donc aucun problème.
Je pense que l'auditrice a raison. Et je pense que les présidents de département sont les premiers à le regretter. Je vais juste faire un petit focus sur l'Allier. Il y a une dizaine d'années, on consacrait plus de 30 millions d'euros chaque année sur les travaux des routes. En 2018, c'est 16 millions, moitié c'est moins.
Parce que les dotations ou il y a d'autres
raisons ? Bien sûr, parce que les dotations. Nous, on demande que ça, de pouvoir investir davantage sur les routes. De pouvoir avoir des projets de contournement urbain pour sortir les véhicules et les poids lourds des villes. De pouvoir sécuriser, de pouvoir améliorer. Je vais même aller plus loin. D'avoir des créneaux de dépassement à trois voies où on continuera de pouvoir rouler à 90. Même des deux fois deux voies. C'est pas une question de manque de volonté des élus. On demande que ça, que de retrouver des moyens pour investir et sécuriser la route. C'est même notre métier. On fait pas des travaux sur les routes pour faire des travaux sur les routes. La vocation des élus, des départements et des agents, c'est la sécurité. Sur ce qui était évoqué par Madame Laveau, les dépassements et l'auditrice qui nous rappelait qu'il faudrait faire respecter le 90. Vous voyez, moi j'ai une crainte sur le passage à 80 km/h, ce que j'appelle, je n'ai pas d'éléments factuels, mais l'effet d'accordéon. Concrètement, aujourd'hui, sauf nouvelle annonce, les poids lourds sont limités à 80 km/h. Quand vous êtes derrière un poids lourd qui va rouler à 78, 77 ou 80 km/h et qu'on peut doubler à 90, on a une marge de manœuvre. Mmh. Demain, quand tout le monde est limité à 80 et que le poids lourd est à 78, il se passe quoi ? Tout le monde reste derrière ? On crée cet effet d'accordéon et de ralentissement ? Ou n'y a-t-il pas aussi un risque, excusez-moi, parce que c'est aussi la nature humaine, d'agacement, et puis d'un seul coup, on va dire, c'est bon, là, ça fait 10 km que je suis aux fesses du camion, et là, je déboîte, et là, on se retrouve dans une situation de danger.
Et c'est très humain ce que vous racontez.
Et ceux qui sont excessifs, voyez-vous, qui sont 4 ou 5 voitures derrière le camion, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il attend celui-là pour le doubler devant, et qui vont remonter d'un seul coup, une file de voitures. Parce que là, le poids lourd à 80 et le véhicule personnel, ils n'auront plus suffisamment d'écart pour pouvoir se dépasser.
Cet agacement que vous racontez derrière le poids lourd à 78, voilà. je le comprends parce que j'imagine qu'on est tous les mêmes et après quand on réfléchit on se dit oui mais 78, oui. Est-ce bien grave?
Mais ce qu'on va pas, on va pas le doubler à 2 km/h de plus, sinon il faudra 18 km pour arriver à le dépasser. Et on va rester derrière et on aura cet effet donc d'accordéon.
Oui mais vous roulerez quand même à 78 km/h, ce qui vous permet de faire un trajet dans un temps raisonnable.
Attendez, je voudrais qu'on retourne au standard parce que c'est le principe de l'émission quand même. Bonsoir Marc.
Allez-y. Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Marc.
Merci. Merci aussi et félicitations pour votre émission qui est toujours très intéressante.
Merci Marc.
Voilà. J'ai une observation, une remarque à faire au sujet de... c'est de la vitesse et je vois que encore une fois quand on propose une limitation de vitesse ça lève une levée de bouclier ça met la France en émoi en fureur et rien que de voir ce qui s'est passé avec les motards qui ont fait rougir leur moteur dernièrement. Et donc c'est une remarque d'un utilisateur occasionnel qui n'a pas de voiture, qui en loue une quand il en a besoin, et donc qui se rend compte quand même de ce qui se passe, qui fait la différence entre ce qui se passe en ville et en province. Donc je remarque qu'en ville, on a beaucoup de moyens pour limiter la vitesse. On a des dodanes, on a des vibreurs, on a des chicanes, sans compter les ronds-points. Et il me semble que, par exemple, quand il y a de longues lignes droites sur des départementales, peut-être que d'implanter régulièrement des vibreurs ou des dodanes, évidemment préalablement signalés, ça pourrait inciter à ralentir sa vitesse, ne serait-ce que pour ménager les suspensions et voilà.
Merci. Allez-y Marc.
En entendant vos intervenants, j'avais également deux autres suggestions rapides.
Rapidement, si vous voulez bien.
Oui. Alors l'autre, ça concerne également indirectement la vitesse, parce que je remarque qu'en province, il y a encore malheureusement des endroits où les directions sont mal signalées et ça provoque de la part du conducteur des hésitations qui peuvent l'inciter à faire des écarts de conduite parce que quand il voit sa destination derrière lui, alors qu'il ne les voyait pas devant lui. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que c'est très bien de faire d'inciter à limiter encore plus sa vitesse, et ce serait encore très bien pour justement favoriser des transports collectifs, comme malheureusement le train qui est dans une conjoncture défavorable en ce moment. Ça pourrait favoriser le train.
Merci.
Et c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça aussi.
Marc, notre invité président d'un conseil départemental, lève les bras au ciel. Ben
j'applaudis,
oui, le train, mais si, on
mais
en
bien
avait,
sûr.
C'est ça que vous êtes en train
et,
de dire.
Et c'est bien ça le problème des territoires qu'on peut qualifier à caractère rural, c'est que quand on a dans la même séquence médiatique l'annonce du 80 km/h, le rapport Spinetta, qui fait peser quand même des inquiétudes sur les petites lignes, c'est que nous, on rêve de pouvoir prendre le transport en commun, d'avoir une alternative à la voiture. Sauf que dans des territoires comme les nôtres, on n'a pas ces transports en commun, on n'a pas les trains pendulaires qui vont bien, et que la voiture, excusez-moi cette expression, mais c'est pour moi la plus évidente. Dans des territoires comme les nôtres, c'est un sac à dos, la voiture. C'est pas simplement l'outil pour aller au travail, emmener les enfants à l'école, se déplacer. C'est le lieu où on a notre parapluie, les affaires des enfants, les affaires de sport. C'est le sac à dos. On a presque fait symbiose avec l'auto. Et que, à la fois pénalisé sur la vitesse, parce que ça va de toute façon rallonger les temps de trajet, même s'ils sont pas instantanés, globalement. Il y avait un article dans l'IB, là, de quelqu'un qui a dit à l'échelle de la France.
Oui,
c'est 125 millions d'heures de plus que les automobilistes vont passer en voiture, potentiellement exposé à des risques. Mais au-delà de ça...
Enfin, tout cumulé, quand même. Je l'ai lu comme vous, cet article-là,
mais il est intéressant.
Tout cumulé, alors c'était marrant
à lire. Il est intéressant. Je dis pas que c'est une fin en soi, mais il est intéressant. Mais chez nous, on demanderait à avoir des transports en commun et des trains. Malheureusement, on a plutôt la crainte qu'on nous en supprime le peu qui reste.
Alors moi, j'ai une curiosité. Est-ce que vous avez le droit, quand vous êtes président du conseil départemental, de mettre des dodanes, des ralentisseurs, des ronds-points, où vous voulez partout? Ça se passe comment, cette affaire?
Il y a des règles de réglementation sur les aménagements de sécurité. Il y avait notamment, dans les années 90, un document très bien fait qui s'appelait « Sécurité des routes et des rues » pour faire un certain nombre de préconisations techniques. Bon, concrètement, un dodane, c'est 30 km/h. Donc, c'est évident que même si demain, il y a les 80 km/h, on ne peut pas passer de 80 à 30 d'un seul coup d'un seul. Sinon, ça va être très accidentogène. Il est évident que tous les aménagements, les équipements doivent respecter des règles très précises. Parce que s'il y a une courbe, on ne peut pas faire n'importe quoi comme aménagement, avant ou après, selon les perspectives de la sortie de courbe. Donc tout ça est encadré. Ça a été fait d'ailleurs à travers le temps par, je trouve, une parfaite convergence des études de l'État, notamment le CEREMA, excusez-moi des techniques, mais aussi de l'expertise des collectivités. Il y a des choses qui ont été initiées. Je prends un exemple dans le département de l'Allier. Premier département qui a développé avec une société privée les panneaux fusibles. Pour qu'en cas de sortie de route sur un panneau, tout tombe et que la voiture ne s'arrête pas dans le panneau. Donc il y a aussi des améliorations pour lesquelles les territoires sont contributeurs.
Et on ne sait pas d'ailleurs que ces panneaux existent. Je dis ça comme par exemple, on sait qu'il faut défoncer une barrière, par exemple quand on est pris dans un passage, parce que la barrière elle tombe toute seule. Ce sont des choses qu'on ne sait pas,
et bah, dans
qu'il est bon de savoir. Parce
les
que
panneaux
ça,
de signalisation sont fusibles.
Ben, ça évite peut-être de faire une embardée ou une chose comme ça. On sait que quand on fonce dedans, c'est moins terrible que ça pourrait l'être.
Exactement.
Je voudrais revenir sur à la fois la remarque de Marc et puis de Claude Riboulet concernant les territoires. Parce que quand il y a à peu près un an, souvenez-vous, on était en pleine campagne pour la présidentielle et donc notre association rencontrait les candidats à la présidentielle. Et on notait cette fracture territoriale concernant la sécurité routière. Parce que, si vous voulez, quand vous regardez la carte de France, il y a des chiffres qui sont terrifiants. En Île-de-France, on est à 20 tués par million d'habitants. Donc on est comme la Suède, vous savez, tous ces pays du Nord là qu'on nous cite en exemple. Quand vous allez dans des départements ruraux, comme le Cantal, comme l'Orne, et j'en pourrais en citer d'autres, on est jusqu'à 100 tués par million d'habitants. Je pense que malheureusement, l'Allier est un département qui paye aussi un lourd tribut, et surtout auprès des jeunes, si j'ai bien regardé les chiffres.
Y compris pour des questions de RCEA.
Donc ça veut dire quoi?
Mais c'est des histoires de sortie de boîte ou c'est des histoires de...
Non.
Si c'est juste statistiquement le fait qu'on utilise sa voiture plus qu'à Paris... c'est de la valeur absolue,
mais
en fait.
C'est aussi les réseaux. C'est-à-dire qu'on rejoint la problématique qui est celle du 80, c'est-à-dire que, et de l'étude que vous avez citée tout à l'heure, c'est que ces routes bidirectionnelles, quel que soit d'ailleurs le niveau d'entretien, et effectivement l'étude démontre que plus elles sont bien entretenues, redessinées, etc., plus les gens vont vite, mais ces routes bidirectionnelles sont de toute façon le réseau le plus dangereux et le plus accidentogène.
Bonsoir Benjamin.
Bonsoir, messieurs, dames.
Allez-y.
Déjà, on n'aborde jamais la question de la vétusté et de la modernité des véhicules, ce qui sont quand même beaucoup plus fiables qu'il y a 40 ans quand on a inventé les limitations de vitesse, mais bon, passons. Mais c'est surtout qu'en Angleterre, où je vais assez souvent, on peut rouler à 100 km/h, 60 miles per hour, sur les routes départementales, locales, et il y a 1800 morts par an en Angleterre contre 3500 en France parce qu'il y a des radars, parce que les gens sont plus polis, parce que les gens sont mieux éduqués à la conduite, parce que quand on s'est fait taper à un grand excès de vitesse, on n'a plus sa voiture, parce que quand on est ivre, on perd son permis définitivement et que les gens sont beaucoup plus courtois et beaucoup plus civilisés.
Est-ce que ça veut dire, Benjamin, vous allez m'arrêter si je me trompe, que du coup, nous, on est obligé d'agir différemment en France parce qu'on n'a pas cette civilité, qu'on est donc obligé de jouer sur les panneaux, non? Il y a peut-être ça qui joue.
Bah, on pourrait peut-être être un peu plus coercitif sur des gens qui sont ivres, qui récupèrent leur permis au bout d'un an, des gens qui sont ivres ou en délit de grand excès de vitesse. Peut-être qu'on pourrait appliquer des mesures coercitives plus fortes et en amont expliquer bien aux gens ce qu'ils risquent. Parce que les Anglais ont des Bentley, ont des Aston Martin qui roulent à 300 km/h. C'est pas un pays de petites voitures, c'est des voitures qui sont en moyenne 20% plus puissantes que les nôtres en plus.
Anne Lavaux, merci beaucoup Benjamin pour cette remarque et ces chiffres surtout qui viennent d'Angleterre. Faudrait-il être plus coercitif? Du coup, les gens comprendraient mieux.
Oui, alors Benjamin pointe effectivement l'exemple UK, enfin de Grande-Bretagne qu'on évoque très 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 souvent. Il faut rappeler quand même que le réseau routier en Grande-Bretagne est très très différent du nôtre, qu'on a en France quand même la particularité d'avoir un réseau routier d'un million de kilomètres de route, et c'est le réseau le plus dense en Europe.
Si on compare les deux réseaux routiers, c'est du quoi? C'est du simple double?
Oui, pratiquement du simple au double avec autant de circulation, donc ça veut dire qu'ils ils peuvent pas rouler non plus très vite parce qu'ils sont là. Mais là où je voulais rejoindre ce que disait Benjamin, c'était par rapport à l'alcool, par rapport à d'autres causes. Et donc ce 80, il faut le rappeler dans un ensemble de mesures. Et par rapport à l'alcool, il y a des choses qui vont être faites sur l'éthylotest anti-démarrage, justement pour les récidivistes alcool. Ça va être rendu obligatoire. Et ça, c'est des, si vous voulez, le problème de ce 80, c'est qu'il est sorti d'un contexte avec d'autres mesures. Alors, notre association n'est pas forcément d'accord avec l'intégralité des mesures, mais sur l'alcool, il y a des choses qui vont être faites.
Puisqu'on est parti au Royaume-Uni, je voudrais qu'on aille au Danemark. On répondra ensuite aux questions. Bonsoir, Jean.
Bonsoir.
Jean, bonsoir. Vous êtes bien loin, Jean. Remarquez, vous êtes au Danemark, peut-être.
Non, je suis
voilà.
Au Danemark.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, donc, cette limitation à 80 qu'on va vouloir nous imposer en France, c'est une mesure strictement démagogique, elle n'a aucune justification technique, puisque le Danemark en a fait l'expérience pendant 2 ans. Ils sont revenus à 90, ça ne changeait rien. Dans certains départements français, l'expérience a été menée pendant 3 ans, je crois. Curieusement, les résultats n'ont pas été publiés. Avec la lâcheté qu'on connaît de l'État, ça veut dire qu'ils sont négatifs. Les automobiles clubs locaux ont observé. Il n'y a eu aucune évolution de la scientologie, donc ça ne sert à rien. Ça va juste servir alors à 2 choses. D'une part, à piquer du pognon aux automobilistes à coups de PV, ça c'est clair. Mais par ailleurs, à provoquer des accidents. Parce que, comme le disait un intervenant un peu plus tôt, si on n'élimine pas totalement les camions du réseau départemental, à la vitesse où ils roulent, c'est-à-dire la même que celle des voitures, ou bien on double et on perd son permis, ou bien on reste derrière, il y a des bouchons et des accidents. Et les accidents, eh bien, il y en aura un peu plus. Et j'imagine en plus que, tant bien même l'accidentologie serait supérieure à 80, que feront nos gouvernants? Eh bien, ils vont se gratter la tête, sortir 1 ou 2 énarques de leur chapeau, et ils mettront 70.
Merci beaucoup pour toutes ces remarques, Jean, et cette comparaison avec le Danemark. Il y a plusieurs choses dans ce que dit Jean, Anne Lavaux. On a fait une expérimentation sur 3 ans et on nous a caché les résultats.
Alors, donc, je voudrais répondre d'abord sur le Danemark. Alors, puisque, en fait, sur le Danemark, au Danemark, on roule à 80 et il y a eu effectivement une expérimentation à 90 et ils ont décidé de ne pas adopter le 90.
Donc, c'est dans l'autre sens, en fait.
Oui, c'est dans l'autre sens.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les expérimentations, si tous les résultats ont été publiés maintenant à la demande des sénateurs, enfin tous ces résultats peuvent être découverts. Après, ce qu'il faut savoir sur les expérimentations qui ont été faites, et notre association l'avait dit dès le démarrage de ces expérimentations en juillet 2015, c'est que de faire une expérimentation sur 80 km dans 3 départements et sur une durée de 2 ans, ça n'a aucun sens, puisque notre sujet est un sujet avec, Dieu merci, une fréquence rare, et donc pour avoir des résultats en termes d'accidentologie et d'accidentalité, il faut faire des expérimentations à très grande échelle et sur une durée beaucoup plus longue.
Claude Riboulet, que je voyais réagir.
Oui, alors sur les 2 interventions, évidemment les véhicules ont été modernisés, ça c'est un paramètre majeur. On a de plus en plus d'assistants d'aide à la conduite et je pense que c'est heureux. Je veux juste rappeler une période de l'histoire pour voir qu'on a quand même énormément fait et qu'il faut continuer de faire, bien sûr. 1970, 15 millions d'automobiles, 18 000 morts. Si on prend 2016, 38 millions d'automobiles, 3 500 morts. Dans le même moment, on a multiplié par 2,5 le nombre de véhicules et on a divisé par 5, et c'est heureux, le nombre de tués. Et sans doute que l'amélioration des conditions de sécurité active et passive des véhicules y a contribué. Sur les autres remarques, moi je rejoins ce que disait Benjamin. Les gens qui sont dans l'excès de vitesse, dans l'excès d'alcool, dans l'excès de stupéfiants, demain, à 80, ils seront toujours dans l'excès. Le problème, c'est que cette mesure générale, c'est monsieur et madame tout le monde qui en pâtissent au même titre que ceux qui sont probablement des grands délinquants de la route et potentiellement des criminels. Et que là, on est dans une mesure qui ne va pas forcément couper court à ceux qui ont poussé le bouchon trop loin, mais pénaliser tout le monde. Je vais éviter de verser dans la démagogie et de parler du radar fiscal. Les auditeurs n'ont pas besoin que je le dise, ils en sont déjà convaincus eux-mêmes du phénomène radar fiscal. Mais quand mon collègue président de la Côte d'Or, François Sauvadet, dit « Nous, ce qu'on veut, c'est moins de morts sur les routes, pas moins de points, pas moins de permis », c'est aussi la traduction de ce que ressentent les gens. Et que derrière ça, ça va être effectivement cette sanction qui, pour 1, 2, 3 km heure, eh bien, on va payer l'amende, on va perdre des points, et c'est pas motivant. Et ça ne permet pas, je veux insister là-dessus, de fédérer tout le monde pour cette cause qui est une cause noble, juste et fondamentale. Je pense que le principe de la responsabilité individuelle, plus on réglemente, plus on légifère, eh bien, d'une certaine façon, on l'atrophie. Mmh. Vous savez, le code de la route, il dit quoi ? Qu'il faut adapter sa vitesse aux circonstances.
En général, il parle de plus bas, en fait, et pas
oui,
de plus
mais
haut.
Oui, adapté aux circonstances. Et des fois, 80, ça sera encore trop vite. Quand bien même on pourra rouler jusqu'à 80.
Ce qui est certain, c'est que vous avez repris l'historique de la mortalité. Bah, Dieu merci, ça a baissé. Mais on ne peut pas satisfaire.
Enfin,
comment peut-on dire, finalement, avec 3500 tués, on est arrivé à l'objectif ? On n'est absolument pas à l'objectif.
Madame Lavaux, vous avez raison.
On ne peut est-ce que vous, pas
excusez-moi
se satisfaire
de, vous couper.
De ce chiffre-là. Attendez,
vous avez raison, mais excusez-moi de vous couper. Non, mais sur ce point. Et donc, vous vous contentez de passer de 3500 à 3100 ? Puisqu'on nous dit passer à 80, qui pèse sur 55%...
Excusez-moi monsieur, moi je ne suis pas l'État, je suis une association
bien sûr,
qui au quotidien œuvre avec 1500 bénévoles
pour
faire baisser la mortalité.
Je veux juste
donc
finir.
Moi je ne me contenterai pas de 3100, j'œuvre tous les jours pour zéro tué.
Eh bien alors, ça veut dire que si on veut atteindre cet objectif, et allons dans le bout de la logique, zéro tué, c'est pas 10 km/h, c'est 25. Et qu'il faut réduire toutes les vitesses à 25.
Non, mais il faut
parce
revenir, monsieur,
accepte,
il faut revenir
accepte,
à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire,
s'il vous plaît.
C'est-à-dire
s'il vous plaît.
Le comportement.
S'il
il faut
plaît.
Agir sur le comportement.
Ben oui.
Et là, on en est
mais
quand même d'accord.
Mais donc, les 10 km/h
et
là, sont pas à l'enjeu, sont pas à la hauteur de l'enjeu.
Aujourd'hui, les comportements sont un petit peu déviants. Il faut utiliser un des paramètres qui est celui qui aggrave toutes les autres causes d'accidentalité, qui est la vitesse.
Alors, ça sera quoi la suite des mesures pour les 3000 morts qui restent?
Eh bien,
puisque là, on va juste,
alors,
entre guillemets, c'est
vous
déjà
vous
énorme,
baisser les bras sur l'idée de faire baisser les comportements.
Je dis que c'est un
les
tout.
Comportements peuvent changer. Si tout le monde s'y met, les comportements changeront. Aujourd'hui, on est obligé de faire baisser la vitesse parce que justement, comme ça aggrave toutes les autres causes
d'accident. J'ai une proposition à faire, d'ailleurs, si on veut des contre-propositions de la vitesse. Permettez que je
passe. Allez-y vite.
Vous voyez, par exemple, je conserve sur la formation de l'apprentissage de la conduite ou sur peut-être des stages de mise à niveau. Il y a des choses aujourd'hui qui manquent. Comment se comporter par rapport à des situations de danger? Un exemple très concret. Est-ce qu'on a le permis tous les trois, les auditeurs aussi, est-ce qu'on a déjà appris le freinage d'urgence? Comment faut-il freiner en cas d'urgence? Doser ou pas doser la pédale de frein ou pas piler? Tenir le volant? Jamais. Jamais. Et c'est seulement quand on est face au danger qu'on est obligé d'improviser.
Alors,
donc je pense que, par exemple, l'apprentissage des réactions, et notamment du freinage d'urgence, pour se préparer à des situations de danger, devrait peut-être rentrer dans la formation initiale et peut-être dans des stages de mise à niveau.
Donc ça veut dire que je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, où vous laissiez supposer que finalement on n'était victime que des grands délinquants, et qu'on mettait tout ça pour des grands délinquants. C'est faux. C'est faux. Les victimes sur la route, ça peut être vos enfants, ça peut être votre femme, ça peut être mon mari. Et donc ça, c'est intolérable, c'est intenable.
Voilà,
et c'est pour ça qu'il faut faire baisser collectivement la vitesse, de manière à ce que la gravité des accidents baisse.
Au passage, moi je suis motarde et le freinage d'urgence, les motards l'apprennent.
Et
ainsi
vous,
que l'évitement d'urgence, ça fait partie du permis de conduire.
Mais pas pour les véhicules.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Daniel, on vous écoute, allez-y.
Oui, j'adhère parfaitement à ce que vient de dire le précédent intervenant. Pour ma part, je considère que le fait d'abaisser à 80 km/h la vitesse, c'est s'attaquer aux conséquences et ne pas s'attaquer aux causes des accidents. Parce que dans les causes des accidents, je vais vous en citer un seul. J'ai été, il n'y a pas très longtemps, en Normandie, dans l'Eure, et j'ai fait comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que je ne pouvais pas doubler un camion parce que j'estimais que compte tenu de la petite pluie qu'il y avait, je pouvais me trouver face à un automobiliste qui n'avait pas allumé ses phares. Par conséquent, en supposant cela, je n'ai pas doublé. Donc, il faudrait s'attaquer à une des causes qui est d'obliger les gens à allumer leur conne lorsque c'est nécessaire. Or, maintenant, on s'attaque. Si on est à 80 km/h et qu'on a en face de soi quelqu'un qui n'a pas allumé ses codes, on va croiser à 80 km/h, c'est-à-dire que 80 plus 80, ça fait 160, on aura des morts qui seront morts moins gravement. C'est tout ce que l'on obtiendra. Alors que l'on m'a appris, lorsque j'ai passé le permis, et ça remonte au siècle dernier, je n'ai jamais eu d'accident, eh bien à cette époque-là, on m'a dit, quand vous doublez, il faut diminuer le temps de dépassement en accélérant. Or maintenant, on ne peut plus accélérer, le sujet a déjà été évoqué tout à l'heure, je n'y reviens pas. Donc, les causes, on ne s'y attaque pas, on s'attaque uniquement aux conséquences, et si on veut s'attaquer vraiment aux conséquences, il faut limiter la vitesse à 10 km/h.
Allez, comme ça, on...
Et puis, il n'y a plus de voiture, aussi.
Mais alors, attendez... Et pourquoi pas, on prendra tous des avions. Anne Lavaux, est-ce qu'on s'attaque pas assez à certaines causes au-delà de simplement la vitesse? Est-ce qu'on va trop vite sur que la vitesse?
Daniel a raison et on rejoint toujours ce que nous on dit et ce qui fait la cause de notre association, c'est-à-dire ce sont les comportements. Et tous les comportements sur cette tâche qui est si compliquée, qui est celle de la conduite, tous les comportements sont importants. Il est important d'être visible, il est important de bien voir, il est important d'être concentré sur ce que l'on fait et pas sur son téléphone. Toutes ces tâches-là sont importantes. Et comme globalement, on se rend compte que, je le rappelle, pendant 3 ans, on a eu la mortalité routière qui est repartie à la hausse, comme tous ces comportements sont aujourd'hui un petit peu en train de dévier, eh bien, il y a un paramètre qui est celui de la vitesse sur lequel on peut agir et on peut agir en passant du 90 au 80.
Claude Riboulet, on n'a pas le temps de prendre Frédéric, mais il pose cette question-là. Il faut être de Paris pour avoir mis cette loi en place. Ce sont sûrement des gens déconnectés des routes françaises. Est-ce que cette déconnexion, sincèrement, vous la sentez réellement? Est-ce que c'est ça le motif de la fronde, en fait?
C'est évident. C'est ce que vous l'avez rappelé en début d'émission. On sent qu'il y a une fracture entre les territoires métropolitains et Paris et la France de province. Évidemment que c'est un sujet sur lequel je ne plaisanterai pas. Mais peut-être qu'à Paris, on rêve de pouvoir rouler jusqu'à 80 km/h.
Dans Paris, dans la ville de Paris.
Je ne parle pas dans Paris, mais je veux dire, vous voyez, quand il y a beaucoup d'embouteillages et de bouchons, peut-être qu'on n'arrive pas. Mais la vérité, c'est que c'est ça qui est ressenti par les territoires ruraux. Mmh. Et qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui sont pénalisés, qui sont abandonnés, qui sont délaissés.
La fin de l'émission. La véritable injustice, c'est que la mortalité, elle est dans les territoires et elle n'est pas à Paris.
Voilà, je le rappelais, le périph' aussi a baissé de 10 km/h et tout le monde a râlé exactement de la même manière. Allez, portez-vous bien tout le monde.